Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Dans un contexte mondial où les enjeux climatiques, économiques et sociaux se croisent de manière inextricable, l'Afrique se positionne non seulement comme un terrain de défi, mais surtout comme un vivier de solutions. Alors que le continent se trouve à un carrefour décisif de son développement, la Semaine de l'Afrique des solutions et durabilité s'impose comme une plateforme incontournable pour repenser le futur africain et du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara. Le podcast de la durabilité.
Le bilan de la COP29, tenu en novembre dernier à Bakou, a mis en lumière plusieurs avancées importantes, bien que des défis majeurs subsistent pour l'Afrique. L'accord final a promis un objectif de 300 milliards de dollars par an de financement climatique pour les pays en développement d'ici 2035, soit trois fois plus que le précédent objectif de 100 milliards. Cependant, cela reste bien en deçà des attentes des pays du Sud, qui estiment leurs besoins à 1300 milliards de dollars annuels. Et pour en parler, mesdames et messieurs, nous retrouvons dans votre émission Durabilité un des abonnés de cette émission, mais aussi un de nos partenaires, Alain-Édouard Traoré, président du Conseil d'orientation et de suivi chez Centre d'expertise pour le développement durable en Afrique. Bonjour encore, Monsieur Traoré. Toujours un plaisir de vous retrouver.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, vous étiez également une des personnalités présentes à cette rencontre à Bakou. Quelles sont aujourd'hui les grandes conclusions de la COP29?
Il faut se féliciter que la COP29 ait pu se tenir et normalement, malgré les conjonctures du moment. Et la COP29 à Bakou est arrivée à un certain nombre de conclusions. Et les plus importantes, c'est l'accord sur la réduction des émissions de carbone. Les parties ont convenu de renforcer leurs efforts pour réduire les émissions afin de limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius, ce qui n'était pas le cas avant. Donc cet accord est prépondérant. Il y a aussi l'augmentation du financement pour aider les pays en voie de développement. C'est vrai, vous avez vous-même parlé de 300 milliards. Et même si on n'est pas allé au-delà, 300 milliards, c'est déjà une avancée par rapport aux 100 milliards qui étaient établis avant. Mmh. Il y a aussi la volonté de la promotion des technologies vertes. Et la transparence et la responsabilité, les parties se sont accordées ou ont pris des engagements pour que tout ceci se passe dans la transparence et dans la responsabilité. Et puisque dans chaque pays, chaque partie est quasiment maître des actions posées, et sans transparence et sans responsabilité, on ne peut pas converger vers les mêmes résultats. Voilà ce que j'ai pu dire par rapport aux aspects qui me semblent les plus importants et concernant les conclusions de la COP29 à Bakou.
Et parlons toujours déjà de cette COP29. On a parlé un peu des grandes conclusions, mais aussi quelles étaient les principales contraintes à la COP?
Et les principales contraintes de cette COP29 à Bakou tenaient à un certain nombre d'aléas. Je peux déjà parler des tensions géopolitiques. Vous savez, Bakou, c'est la capitale de l'Azerbaïdjan. Mmh. L'Azerbaïdjan, dans le contexte actuel, avec la crise du Haut-Karabakh, avec l'Arménie, et donc les pays occidentaux d'un côté et de l'autre côté, et l'Azerbaïdjan qui est beaucoup plus allié à la Russie et d'autres pays de la sous-région là-bas. Et naturellement, ce qui a fait que ça a démobilisé un certain nombre de pays occidentaux. Et pour dire que même la question des changements climatiques n'échappe pas justement aux considérations géopolitiques et aux tensions géopolitiques. Et justement, sur cette lancée, on a remarqué l'absence de certains dirigeants clés du monde, dont les voix comptent le plus, et dont les États sont les plus concernés par les émissions de gaz et donc qui sont directement concernés par les changements climatiques et qui impactent. Et en l'absence de ces dirigeants clés, tels que Américains, Français, Chinois et même Russes, on peut se dire qu'il y avait un manque à ce niveau. Et l'autre élément que je peux retenir, c'est la pression des industries polluantes. Et il y a un certain nombre de pays, un certain nombre d'industries aujourd'hui au plan mondial qui se disent que les énergies fossiles font beaucoup plus leurs affaires aujourd'hui et qui mettent une certaine pression qui retarde les avancées par rapport justement aux transitions énergétiques. Voilà un peu des grandes contraintes qui ont impacté sur les négociations à Bakou.
Et dans cette même dynamique également, on peut aussi parler aujourd'hui de ce plus-value de la COP29 à Bakou par rapport aux précédentes COP. Que pouvez-vous nous en dire?
Oui, c'est vrai que chaque COP essaie d'apporter sa plus-value et Bakou n'a pas manqué à cette obligation, à cette responsabilité. Et on peut dire que qu'à Bakou, et malgré quelques déceptions, on peut dire que l'objectif de financement renouvelé est augmenté à 300 milliards de dollars par an d'ici 2035, est une avancée, est une plus-value de la COP29 à Bakou. Il y a aussi la question de la finalisation des règles du marché mondial des crédits carbone. Et jusqu'à présent, on parlait beaucoup de crédit carbone, mais les règles n'étaient pas aussi claires, aussi pertinentes pour permettre à chaque partie, à chaque État de jouer le jeu et de pouvoir véritablement tirer parti de ce marché mondial des crédits carbone en vue de contribuer justement à la lutte contre les changements climatiques. À Bakou, on a pu avancer sur la finalisation des règles du marché. Il y a aussi, comment avancer de la COP29 à Bakou, la question de l'engagement des acteurs non étatiques, surtout les entreprises.
Tout à fait.
Et la société civile a davantage marqué le coup, mais l'engagement des entreprises est important. Parce qu'en réalité, ce sont les entreprises qui, en grande partie, contribuent aux pollutions à travers les industries et d'autres, l'utilisation des technologies de production. Et donc, cet engagement, je pense qu'à Bakou, on a senti véritablement que les entreprises étaient allées beaucoup plus en avant en termes de prise de conscience de leur responsabilité sur la question du changement climatique.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'Afrique tire de cette COP29 à Bakou? Parce que c'est la grande question aujourd'hui, les retombées donc concernant cette COP pour l'Afrique.
Bon, déjà l'augmentation du niveau de financement est un acquis essentiel pour le continent africain, parce que l'Afrique aujourd'hui est la grande victime du changement climatique sans être le responsable véritablement, parce que notre taux d'émission de gaz est très faible, mais nous subissons de plein fouet les conséquences du changement climatique. Et donc, en finançant à hauteur de 300 milliards par an, et pour permettre l'adaptation et la réduction des gaz dans les différents États, je pense que l'Afrique peut aujourd'hui tirer parti de ce financement au niveau global. Il y a aussi l'adaptation et la résilience. L'adaptation et la résilience pour le continent africain constituent les éléments clés aujourd'hui pour pouvoir faire face au changement climatique. Et pour cette adaptation, il nous faut et la promotion des technologies vertes et des énergies renouvelables. Et je pense que le financement, l'augmentation du financement qui a été effectué à Bakou va permettre à l'Afrique de mener des politiques idoines en matière d'adaptation et de résilience face au changement climatique. Mais il reste le grand mais. C'est une chose qui constitue les engagements pris.
Tout à fait.
Une autre constitue les décaissements que les États doivent effectuer pour mobiliser les fonds pour que les pays puissent en bénéficier.
Mais également, qui parle de fonds, qui parle également de ces différents aspects que vous venez d'énumérer, ne peut pas aussi ne pas se poser la question des enjeux aussi à venir pour l'Afrique en matière de changement climatique. Aujourd'hui, quels sont ces grands enjeux?
Oui, les enjeux à venir pour le continent africain demeurent essentiels. Ce n'est pas en une COP qu'on peut véritablement régler l'ensemble des problèmes. Et les problèmes restent en paix. Il y a la question de la lutte contre la sécheresse et le stress hydrique, qui est un des impacts importants du changement climatique sur le continent africain. Les écosystèmes sont perturbés, donc au plan écologique, et la sécheresse devient plus grave, le stress hydrique est là, les paysans manquent d'eau pour la production agricole, et quand on se dit que l'agriculture est en réalité le premier pourvoyeur d'emplois sur le continent, donc occupe la grande majorité de la population, et que c'est cette agriculture qui doit assurer l'autosuffisance alimentaire, donc la sécurité alimentaire, et que cette agriculture est atteinte de plein fouet par les impacts du changement climatique, donc du coup réduite à néant, il va de soi que cette agriculture, qui est la base même de l'économie de la plupart des pays africains, et l'impact, c'est que nos économies ne se portent plus bien, c'est qu'il n'y a plus de sécurité alimentaire, c'est qu'il y a une paupérisation et du coup, il y a la question des migrations climatiques. Il y a dans beaucoup de domaines aujourd'hui sur le continent africain.
Tout à fait.
Il y a dans beaucoup d'endroits, surtout dans les pays de la région du Sahel, et j'aime parler de saharisation du Sahel, c'est-à-dire que les terres sont en train d'atteindre un degré où elles ne sont plus aptes à aucune forme de production, obligeant les populations à aller chercher des solutions ailleurs. D'où les migrations, d'abord à l'intérieur du pays, ensuite dans la sous-région, et enfin, au-delà même de la sous-région, au-delà de la Méditerranée, pour aller chercher des solutions beaucoup plus en Europe ou partout ailleurs. Et ça, c'est l'impact des migrations climatiques, et ça, c'est un enjeu fondamental. Donc, vous voyez, j'ai cité un certain nombre d'enjeux.
Tout à fait.
Agriculture, sécurité alimentaire, et sécheresse, migration, économie, production agricole. Mais tout ça, c'est lié par un même cordon dynamique qui permet véritablement d'avoir un équilibre de vie ou de ne pas l'avoir. Et ça, c'est le grand enjeu qui demeure pour la plupart des pays africains et singulièrement pour les pays du Sahel qui vivent une situation assez complexe par rapport au changement climatique.
Les grands enjeux de cette COP 29 aujourd'hui, nous avons pu échanger avec un des acteurs, il y était, il a vécu au nom de l'Afrique également les dispositions prises aussi, par rapport également aux fonds dégagés par l'Afrique, même si les attentes ne sont pas atteintes à 100%, il y a eu des améliorations. Merci encore à vous, Alain-Édouard Traoré. Je rappelle donc que vous êtes président du Conseil d'orientation et de suivi chez Centre d'expertise pour le développement durable en Afrique.
Merci beaucoup.
Merci également à vous, chers abonnés de cette émission Durabilité dans la durabilité de votre confiance. Aujourd'hui, c'était la première partie de ce bilan concernant la COP 29 vue par les experts et aussi les intervenants africains. Vous aurez pour le prochain numéro également une deuxième partie consacrée à l'expertise internationale aussi et aussi le bilan plutôt à tirer de cette COP 29 et des autres COP à venir. Alain-Édouard Traoré, merci encore à vous.
Je vous en prie et à bientôt.
À bientôt.